Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à nos musiciens. Merci de votre attention à la parole de Dieu que l'on va étudier ensemble ce matin. On regarde le livre de Josué. On est déjà toujours dans une série. Et on est arrivé au chapitre 7, le coupable désigné et le Dieu saint. La lecture est assez longue. Je voudrais démarrer tout de suite. Chapitre 7, on va lire le chapitre en entier. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Vous vous souvenez, je vous redonne juste un mot de contexte. Juste avant cet épisode du chapitre 7, chapitre 6, il y a eu la conquête de Jéricho, spectaculaire. Verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Éternel, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et pour nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce !» Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils sont dérobés et ont menti et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne purent-ils pas résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon les tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Et il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zerach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zerach par maison, et Zabdi fut désigné. Et il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Achan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. » Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Acan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente et les approchèrent et les apportèrent à Josué et tous les enfants d'Israël et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu et on les lapida. Et on éleva sur Acan un monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement que l'on a donné jusqu'à ce jour et à ce lieu le nom de vallée d'Acor. Il y a 2 semaines, Nicolas nous partageait le récit spectaculaire de la prise de Jéricho par le peuple d'Israël. Un peuple qui est en train de se confier en l'Éternel, qui place sa confiance, sa foi en lui. Et même cette foi est relevée, célébrée en hébreu au chapitre 11. Il nous est dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Mais peut-être qu'il est possible ce matin que parmi nous, quelques-uns soient choqués par certains versets de Josué. Par exemple, chapitre 6, verset 17. Josué dit, la ville sera dévouée par interdit et tout ce qu'il s'y trouve. Au verset 24, ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Et non seulement ça s'est produit à Jéricho, mais si vous continuez la suite du livre de Josué, vous allez vous rendre compte à partir du chapitre 10, verset 28, il nous est dit que Josué prit Makkéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée et dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun et il traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Mais non seulement Makkéda, mais encore Lachish, verset 35, chapitre 10, verset 37, c'est Hébron qui est traité de la même manière et à chaque fois la même expression, sans en laisser échapper personne. Et puis au chapitre 11, il poursuit avec Hatzor et il dit, on frappa du tranchant de l'épée et on dévoua par interdit tout ce qui s'y trouvait. Il ne resta rien de ce qui respirait. Et l'on mit le feu à Hatzor. Ces villes sont frappées d'anathèmes ou d'interdits. Elles sont détruites, rasées. Et la difficulté que l'on rencontre, c'est comment est-ce que nous arrivons à réconcilier un Dieu plein de compassion, un Dieu rempli d'amour que nous connaissons avec de tels épisodes et un tel carnage. Il y a de quoi véritablement frissonner. Et c'est une difficulté. Et c'est normal que ce soit une difficulté pour nous. Et je pense que c'est cette difficulté que ce chapitre 7 est en train d'aborder. Une autre difficulté. Chapitre 6, verset 21. Écoutez ça. Ils s'emparèrent de la ville de Jéricho. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards. jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Sans distinction. Tous sont frappés. Et je crois que notre sensibilité occidentale est heurtée par un tel désastre. Elle est heurtée par cette solidarité de l'ensemble du peuple. On ne voit pas bien la responsabilité des enfants, des brebis, dans l'idolâtrie cananéenne. Et puis, dans le chapitre 7, le récit que l'on vient de faire, c'est une conquête nationale qui se déploie. Il y a plus de 600 000 hommes de guerre qui vont combattre et prendre ce pays promis. Et survient une défaite humiliante contre la ville de Haï. Petite ville de Haï. Dieu fait alors un focus sur un seul homme qui commet un vol, qui prend une partie du butin réservé à Dieu. Remarquons que Achan sait qu'il fait mal. C'est pas qu'il n'a pas entendu qu'il fallait pas rien toucher de ce qui appartient à Jéricho. Non, non, il sait. Il le sait. Il y a plusieurs indices qui nous le font connaître. Mais le plus important indice, c'est qu'il cache. Il cache ça à toute sa famille, il cache ça à son peuple, il cache ça au milieu de sa tente. Et il est jugé par Dieu. Et ce qui est frappant ici, c'est qu'il connaît le même sort que les Cananéens. Vous avez remarqué, je l'ai lu tout à l'heure, la ville de Jéricho a été brûlée, elle a été détruite, et il en restait juste... Aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site de Jéricho, c'est un tas de pierres, assez important. Mais regardez ce qu'il est dit au chapitre 7 et au verset 26. On les brûla au feu, on les lapida et l'on éleva sur Achan un monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Le même traitement pour Jéricho et ses villes comme pour Achan et sa famille. Et si Josué, chapitre 7 que l'on vient de lire, était précisément écrit pour empêcher Israël de croire que Dieu juge les autres peuples arbitrairement. Ainsi, ce chapitre pourrait être bien écrit par Dieu pour que nous ayons les éléments pour répondre aux difficultés précédemment mentionnées. Pour que la conquête, montrer que la conquête n'est pas une guerre ethnique, mais un jugement moral. Pour montrer que l'humanité est solidaire dans le péché. Et puis enfin, pour montrer le jugement et la grâce divine. Regardons ce premier point, la conquête n'est pas une guerre raciale ou ethnique, mais un jugement. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, juste je voudrais faire deux petites... Il y a une mauvaise piste quand on cherche à expliquer ces textes. Et une des mauvaises pistes qui est souvent mentionnée, c'est que Dieu est différent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Certains vont dire, Dieu est vengeur, il est cruel, mais dans le Nouveau Testament, il est amour, il pardonne tout, etc. Ça, c'est une terrible piste. Oubliez cette piste. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous poursuivons cette piste, on va faire des incompréhensions terribles. Dieu n'est pas différent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Comme si dans le Nouveau Testament, il fermait les yeux sur le péché. Comme s'il était bienveillant à l'égard du péché. Non, tu es le même. Le Nouveau Testament parle de l'enfer, parle du feu éternel pour le pécheur qui ne se repent pas. Le Nouveau Testament est centré sur la crucifixion de Jésus-Christ, le Dieu parfait, le Dieu seul saint, qui prend la colère de Dieu sur lui-même. Lui, le juste pour les injustes. C'est précisément parce qu'il est le même, en colère contre le péché, que Dieu a envoyé son Fils bien-aimé pour mourir à notre place. La deuxième mauvaise piste, ce serait de dire, avec un peu de détachement, « Oh, c'était une autre époque, c'était une autre culture. Nous ne devons pas juger trop sévèrement. C'était leur culture, vous savez. Nous, au XXIe siècle, on est un peu sensibles. » Et on justifie comme ça le cannibalisme, la mise à mort des veuves avec leurs maris en Inde. Ce n'est pas parce que c'est notre culture que la chose est bonne. Et dans notre propre culture du XXIe siècle, il y a bien des choses qui devraient mettre ou qui mettent Dieu en colère. Les Cananéens sont jugés pour leur péché après une longue patience. Il faut comprendre ça. Ça fait, il y a 400 ans avant ces événements, Dieu promet à Abraham de donner à sa descendance le pays de Canaan, le pays où habite Abraham. Mais il dit, je ne vais pas te le donner dans l'immédiat. Pourquoi ? Mais parce que, dit-il, Genèse 15, 16, l'iniquité des Amoréens, des Cananéens, n'est pas encore à son comble. Dieu n'accordera pas immédiatement le pays à la descendance d'Abraham pour l'une de ces raisons, les habitants actuels de Canaan ne sont pas encore arrivés au niveau de corruption et de violence qui justifierait leur jugement immédiat et leur extermination. Et du coup, Israël ne reçoit pas le pays de Canaan parce qu'il est le chouchou de Dieu, par favoritisme. Les peuples cananéens sont jugés pour leur propre conduite. Et c'est ce que la parole de Dieu dit précisément. Lorsque l'Éternel, en Deutéronome chapitre 9, versets 4 et 5, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, les Cananéens, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Les Cananéens adoraient des divinités toutes plus cruelles les unes que les autres, notamment Baal, Astarté, Moloch, et les cultes à ces divinités les poussaient à commettre des choses abominables. De la violence, des sacrifices d'enfants, des comportements sexuels déviants. Je lis la liste en Lévitique chapitre 18. Il parle d'inceste, il dénonce l'adultère, la pédophilie, l'homosexualité, la zoophilie. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs un service d'envol pour que les enfants entendent des choses adaptées à leur âge. Parce que si on devait montrer tout ce que les abominations, ils feraient des cauchemars toutes les nuits. Le pays, Dieu dit, le pays a été souillé et je le punirai pour son iniquité et le pays vomira ses habitants. C'est ce jugement qui est porté sur les Cananéens, ils vont être vomis de ce pays. Quelques remarques. D'abord, ce qu'on adore nous gouverne. Ce que l'on adore nous gouverne. Si quelqu'un adore l'argent, il devient prêt à mentir, exploiter, tricher, écraser les autres, sacrifier sa famille, perdre toute compassion pour conserver ou pour augmenter ses biens. Ainsi, l'idole transforme progressivement le caractère. Ce que nous adorons va transformer nos cœurs. Choisissez bien votre Dieu. Judas, l'Iscariote, illustre ce mécanisme. Il était, la Bible nous dit, le Nouveau Testament dit qu'il était cupide. La cupidité est une idolâtrie. Et la cupidité le conduit au vol. Il prenait dans la caisse des disciples. Puis, sa propre cupidité le conduit à trahir Jésus pour 30 pièces d'argent, en le faisant mourir. Son idolâtrie l'a conduit au meurtre. Si quelqu'un adore sa réputation ou son confort, peut être porté à mettre à mort un enfant à venir, parce qu'il arrive à un mauvais moment ou avec la mauvaise personne. Quand une chose devient un absolu, que ce soit l'argent, le sexe, le succès, la nation même, ou le pouvoir, elle finit par exiger des sacrifices. C'est pourquoi l'idolâtrie conduit toujours à des comportements destructeurs. Dieu juge les peuples cananéens pour leur péché, pour leur idolâtrie. Deuxièmement, Dieu est patient. Du temps d'Abraham, Dieu avait déjà repéré le péché des Cananéens. Mais il a attendu encore 400 ans avant de le juger. Dieu est patient. Mais le mal collectif finit par être jugé, toujours. On regarde avec une certaine distance toutes ces activités idolâtres. Mais songez un instant au culte qui était rendu à Moloch. On offrait des enfants que l'on brûlait vifs à Moloch. Moloch, c'est une divinité avec une tête de taureau et un corps d'homme. On le représente assis sur un trône avec les mains comme cela. Et on allumait une fournaise sur ses genoux et on déposait des enfants dans ses bras de bronze là. Si une chose comme celle-ci se produisait dans un pays, les nations d'alentour pourraient-elles rester silencieuses? Dieu est intervenu et a fait de son peuple d'Israël l'instrument de sa justice. Troisième remarque, on finit toujours par imiter le mal que l'on observe parce qu'il se banalise à nos yeux. Retenez ça. On finit toujours par banaliser le mal que l'on observe et à l'imiter. En Deutéronome chapitre 20, je vous lis le verset 16 à 18, je vous donne juste un extrait. Il dit, c'est l'Éternel qui parle, il dit, « Tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hessiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. » Des siècles plus tard, la nation d'Israël, qui a épargné quelques-uns de ses peuples cananéens, a commis les mêmes choses, les mêmes infamies. Et Dieu enverra d'autres nations pour les châtier et les vaincre, puis pour les déporter. Quatrième réflexion. Nous ne sommes pas appelés à faire la guerre à un peuple pour ses idolâtries et ses péchés. D'accord ? N'allez pas déterrer le fusil ou je ne sais quelle épée. Non, dans le livre de Josué, Israël est une théocratie. Une nation qui est gouvernée directement par Dieu, avec une terre, une armée et une mission unique de conquête. La prise de Canaan n'est pas une guerre religieuse ordinaire, mais un jugement historique de Dieu contre les Cananéens et l'établissement provisoire de son peuple dans la terre promise. Et cette conquête, là où elle doit nous donner de l'instruction, c'est que cette conquête préfigure le jugement final. De la même manière que cette conquête, que Sodome et Gomorre préfiguraient le jugement pour final. De la même manière que le déluge préfigurait le jugement final. Elle anticipe en fond la justice ultime de Dieu dans l'histoire. Et là, nous sommes concernés. Nous ne pouvons pas juste fermer les yeux en se disant « il n'y a pas de jugement ». Il y a, mes amis, il y a un jugement. Il y a un véritable jugement. À la fin, il y a un jugement. Pour chacun d'entre nous. Un jugement auquel on ne peut pas échapper. Un jugement qui sera parfaitement juste. Un jugement qui tiendra compte de toutes nos mauvaises actions, y compris celles que l'on a oubliées. Et je crois que ces textes qui nous choquent doivent réveiller en nous cette pensée. À la fin, il y a un jugement. Dieu est patient, oui, mais à la fin, il y a un jugement. Israël agit comme l'instrument exceptionnel du jugement divin. Et ça, c'est une mission qui n'est jamais confiée à l'Église. D'accord ? Ne vous prenez pas pour Israël qui doit juger les autres nations. Avec Jésus-Christ, le royaume de Dieu change de forme. En Jean, chapitre 18, Jésus affirme que son royaume n'est pas de ce monde. Et il dit, si mon royaume était de ce monde, mes disciples prendraient ma défense. Il n'est pas de ce monde. Il ne se propage pas par la puissance politique ou militaire. Le peuple de Dieu n'est plus une nation géographique, mais un peuple international, sans armée sainte, ni conquête territoriale. Ainsi, l'Église ne poursuit pas les guerres de Josué. Sa mission, elle est spirituelle. Elle agit pour proclamer l'Évangile. Aimer les ennemis, combattre avec la vérité et par la prière, non par l'épée. Le contraste est flagrant entre ce que l'époque de Josué et la nôtre, c'est que sous Josué, les ennemis meurent pour établir le peuple de Dieu. En Jésus, c'est le roi qui meurt pour sauver ses ennemis. Attention, lors de sa première venue, Christ porte le jugement au lieu de l'exécuter sur le monde. Mais le jugement final viendra lors de son retour. Ce ne sera pas l'Église qui l'exercera, mais Christ lui-même, le juge annoncé dans l'Apocalypse. Ainsi, nous sommes appelés à combattre, non pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Et nous combattons l'idolâtrie en révélant le Dieu véritable et son amour pour nous. Par exemple, le sati était une pratique où certaines veuves étaient brûlées sur le bûcher funéraire de leur propre mari. Quand des missionnaires réformateurs chrétiens sont arrivés en Inde, ils ont dénoncé cela. Et William Carey notamment. Et finalement, les cœurs ont changé. On a arrêté de brûler les veuves sur le bûcher de leur mari. L'Évangile a inspiré aussi plusieurs grands abolitionnistes, William Wilberforce et John Newton. Certaines croyances prétendent que les parties du corps de certaines personnes, albinos, apporteraient richesse, chance ou pouvoir dans des pratiques de sorcellerie. Vous imaginez le trafic criminel, lucratif, qui est développé à partir de cela ? Dans d'autres pays, ce sont les jumeaux qui sont porte-bonheur, ou au moins un morceau. D'autres fois, ils sont malédiction. Alors on les rejette, on les tue, on les abandonne. C'est l'Évangile qui transforme les cœurs en profondeur. Mais prenons garde au jugement à venir. La deuxième pensée que je voudrais partager ce matin, c'est que ce récit est donné pour que l'on puisse comprendre que l'humanité est solidaire dans le péché. Vous avez remarqué cela au début de notre texte, il est dit « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. » La fin du verset dit « Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. » Mais entre ces deux petites phrases, il y a « Akan, fils de Carmi, etc. » pris des choses dévouées. Il y a un homme qui pêche et tout le monde est frappé. Il a agi seul, secrètement, et tout le peuple est déclaré coupable. Ça, c'est vraiment difficile pour nous occidentaux parce qu'on est tellement individualiste. On a l'impression que c'est notre vie, point barre. Ça marche pas comme ça. Et les autres peuples peuvent vraiment nous éclairer là-dessus. Et donc, ce peuple d'Israël perd la première bataille véritable qu'ils doivent mener. Versets 4 et 5, ils perdent 36 hommes, 36 familles sont endeuillées et toute une nation est... Vous avez remarqué, verset 5, la fin du verset 5, le peuple fut consterné et perdit courage. C'est exactement les mêmes mots qui sont employés au sujet des Cananéens. Rahab, vous vous souvenez, chapitre 2, elle dit, nous avons appris tout ce que l'Éternel a fait pour vous. Et nous, tous, les Cananéens, nous avons perdu courage. Et nos cœurs sont dans l'abattement, sont consternés. Et puis quand ils ont passé, les mêmes mots sont employés au début du chapitre 5, verset 1. Il y a au passage un excès de confiance, vous avez remarqué, hein, chez les Israélites, verset 3. Il y a une absence de prière, et il y a une absence de recherche de Dieu. Et les espions disent, inutile d'envoyer trop de monde. Hein. Là, Haï, c'est... On va boucler ça en 2-2. Hein. Ouais, 2000, 3000 personnes, max. Josué dit, envoyons 3000. Et c'est la déroute. Néanmoins, Israël ne perd pas parce qu'ils ont envoyé trop peu d'hommes, mais parce que le peuple est devenu impur par sa faute. Ils auraient pu être 100 fois plus nombreux, ils auraient tout de même perdu. Ce qui nous surprend ici, c'est la solidarité du peuple avec Achan. Le Seigneur, il insiste franchement tout au long, ça m'a frappé toute cette semaine dans l'étude de ce passage, parce qu'il il répète sans cesse cette vérité. La généalogie d'Achan est donnée au verset 1. Et lorsqu'il explique à Josué de se lever et de détruire l'interdit, au verset 11, il dit « Israël a péché ». Et vous avez remarqué, juste après, il dit « Ils ont transgressé mon alliance, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti, ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent pas tenir devant leurs ennemis et ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Ils sont sous l'interdit. C'est ils tous. Il y a une solidarité de tout le peuple ici. C'est repris sans cesse. Il y a une responsabilité collective. Il y a une solidarité dans la race humaine. Regardez encore Achan. Verset 20, il dit « J'ai péché ». Ok, je vais vous dire ce qui s'est passé. « J'ai péché ». Il dit encore, verset 21, « J'ai vu dans le butin ». Vous voyez la scène ? Ils ont ramassé tout un tas de butins qu'ils ont pris. Et là, à quand on passe ? Wow. Tout ça, c'est dévoué hein, par interdit. Ça entre dans le trésor de l'Éternel. Et on ne doit surtout pas y toucher. Mais là, il y a un manteau de chinéar. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est au moins, je sais pas quoi. Balenciaga. Il y a de l'or, il y a de l'argent. J'ai vu, j'ai convoité et j'ai pris. Vous remarquez, en passant, on aurait l'impression que c'était la même confession d'Ève dans le jardin d'Éden. J'ai vu l'arbre, j'ai vu le fruit, j'ai convoité, j'ai pris. Et c'est comme ça que fonctionnent nos cœurs. On voit, convoite dans notre cœur et on prend, on se rend coupable. Et on doit faire attention à ce que l'on regarde, à ce que l'on voit. Et surtout, quand on convoite, les signaux devraient être en alerte totale dans nos cœurs. Mais regardez encore, verset 24, chapitre 7. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or. On est tous OK pour ça. Mais regardez, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartient. C'était exactement la même expression qu'au chapitre 6, verset 21, quand il fallait dévouer par interdit Jéricho. Notre culture individualiste est choquée par ça. Eux n'ont rien fait et ils vont pourtant mourir. Il y a une réalité qui est difficile pour nous occidentaux, mais que la Bible souligne fréquemment, c'est que tu es capable de faire quelque chose de mal, le fait que tu en sois capable, ce qui t'a permis de devenir le genre de personne capable de faire ce mal, c'est en grande partie ta famille, ton peuple. En Romains chapitre 5, au verset 12, Paul dit que nous sommes solidaires avec Adam qui a péché. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Tim Keller explique ceci, et je essaye de bien suivre cela. Si vous faites partie d'une communauté, il existe des systèmes auxquels toute la communauté participe. Les choses sont mises en œuvre par le système, et vous, en participant à la communauté, vous contribuez dans une certaine mesure à ce que cela se produise, même s'il existe différents niveaux de responsabilité. Vous pouvez faire partie de la communauté, savoir exactement ce que fait le système, vous en réjouir et participer activement. Ou bien vous pouvez avoir une vague idée de ce qui se passe dans le système sans trop y réfléchir, mais en y étant favorable. Ou encore, vous savez ce qui se passe, mais vous ne faites rien pour y mettre fin. Ou enfin, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, mais vous vous en moquez et vous ne cherchez même pas à vous renseigner. Pensez à ce qui s'est passé dans la dernière guerre, la Shoah. On retrouve chaque communauté ici. Prenons l'exemple plus proche de nous, de la prostitution dans notre quartier. Au sommet du système, au niveau des plus grands responsables, il y a des gens qui mettent en place le trafic humain, qui contactent des filles au Nigeria, qui finissent par leur confisquer leur passeport. Il y a les passeurs qui prennent beaucoup d'argent pour les conduire en Europe et qui abusent de ces filles. Il y a l'obligation d'acquitter une dette factice quand elles arrivent sur le territoire européen. Il y a ceux qui vendent ces filles, les proxénètes, les madames. Et puis en dessous, il y a des clients qui achètent leurs services. Il y a les personnes qui sous-louent un logement à ces femmes dans des conditions déplorables, qui se font payer en liquide et touchent les APL par ailleurs. En dessous, il y a le voisinage, il y a les dirigeants qui savent ce qui se passe, qui s'en plaignent, mais qui ne font rien. Puis on descend jusqu'aux citoyens, aux Toulousains, qui se doute qu'il y a beaucoup de misère, mais qui ne veut vraiment pas savoir, qui se contente de détourner le regard. À une extrémité, vous avez des gens qui ont une très grande responsabilité collective, et à l'autre extrémité, des gens qui en ont très peu. Mais toutes ces filles sont abusées, brisées, parce que tout le système fonctionne. et que tous ceux qui ont part au système, tous ceux qui ne résistent pas au système en font partie. Car le système ne peut pas fonctionner si tout le monde ne joue pas son rôle, ne serait-ce qu'en détournant le regard. Et le même schéma se répète pour le trafic de drogue, pour le travail des enfants à l'autre bout de la planète pour faire nos vêtements, nos chaussures, pour l'exploitation de personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses, pour extraire certains minerais précieux pour nos téléphones ou pour nos stades. On comprend pourquoi Daniel, au chapitre 9, ce prophète qui n'a pas commis les choses, les péchés qu'il dénonce, mais il les confesse et il emploie le « nous ». Nous sommes coupables. En fait, nous avons une responsabilité collective dans le mal, à divers niveaux sans doute. C'est pourquoi le péché n'est jamais purement privé. Il contamine toujours toute la communauté. C'est pour cela que l'extermination porte sur toute la ville. Hommes, femmes, enfants, vieillards et tout ce qui respire. Vous dites, mais les enfants n'ont rien fait. Mais Dieu observe ce peuple. N'oubliez pas ça. Dieu observe ce peuple depuis 400 ans. Des générations et des générations et des générations se sont succédées. Et Dieu a observé chaque génération. Et de chaque génération, c'est de pire en pire. Il voit ce petit bébé là, tout mignon. Et puis, 30 ans plus tard, c'est lui qui porte son enfant sur le bûcher de Moloch. Et encore, et encore, et encore. Et à ce moment-là, Dieu d'une patience infinie, ce qui n'est pas le bon mot, hein, d'une patience extraordinaire, décide maintenant, c'est assez. Et il entre en jugement avec ce peuple. De la même manière qu'un jour, il dira avec nos propres vies, c'est assez. Et nous comparaîtrons devant sa face. Maintenant, si vous rejetez encore cette vérité de la solidarité humaine, prêtez bien attention à la suite. Romains chapitre 5, verset 19 dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, écoutez encore la suite. Il ajoute, de même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Par notre union à Christ, par la foi, nous sommes mis au bénéfice de sa justice. Si vous rejetez la responsabilité collective dans le mal, dans le péché, vous devez aussi rejeter l'imputation collective du bien de Christ. Josué 7 répond indirectement au scandale des Cananéens. Si Dieu détruit aussi l'Israélite qui agit comme les Cananéens, alors le problème n'est pas l'ethnie, mais le péché. Le jugement est moral et théologique. Israël lui-même sera plus tard exilé pour les mêmes raisons. C'est pour cela que nous devons considérer notre propre péché plutôt que d'être très accusateurs sur le péché des autres. Le péché a des effets et une dimension collective indiscutable. Mais la culpabilité morale proprement dite demeure liée à la personne devant Dieu. C'est-à-dire que on est tous coupables, on est tous responsables. Mais nous serons jugés pour ce que l'on a fait. Soit pour avoir trafiqué avec des filles du Nigeria pour les faire venir là et s'être enrichi crapuleusement sur leur dos. Soit pour avoir simplement détourné le regard de cette situation qui nous gêne. Or, certainement, ce n'est pas le même niveau de jugement ou de condamnation. Vous avez noté la manière dont Achan va être désigné. Et c'est une bonne partie du récit est là-dessus, au verset 14. Hein, Dieu dit, vous approcherez le matin, selon vos tribus, et la tribu que sera désignée, que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille qui sera désignée par l'Éternel s'approchera par maison, et la maison qui sera désignée par l'Éternel s'approchera par homme. Et celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui a été dévoué par un délit sera brûlé au feu. Pourquoi une telle mise en scène ? Dieu sait déjà, il l'a déjà dit dans le verset 1, c'est Achan. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça ? Il agit comme ça pour la même raison qu'il a patienté 400 ans pour les Cananéens. Il veut nous amener à la repentance. Il veut que l'on comprenne qu'aucun péché n'est caché devant lui. Que le péché n'est jamais secret pour Dieu. Jamais. Il veut nous montrer la solidarité du peuple de l'Alliance. Israël tout entier connaît la défaite. Il veut aussi, et surtout, laisser place à la repentance. Il veut donner à Achan l'occasion de se repentir. Avant l'exposition finale. Le processus est lent, ça a commencé dès le matin. Mais dès le matin, quand les 12 tribus passent devant Josué, et que finalement, Dieu dit, c'est celle-ci, Judas.
Waouh.
Il fait partie de Judas. Il sait ce qu'il a fait. Et ensuite, Judas repasse devant l'Éternel, devant Josué, etc. Le processus est lent, il est public. À chaque étape, Achan voit le cercle se resserrer. Imaginez ici, colonne du milieu. Rang. Un tel. On va compter depuis la droite. Mais ça devrait le pousser à la repentance. Ça lui laisse du temps pour confesser spontanément, se repentir avant d'être publiquement démasqué. Et Dieu est patient envers le pécheur, envers chacun d'entre nous, pour qu'on puisse se repentir spontanément. Mais Achan, lui, reste silencieux jusqu'au bout. Ça révèle l'endurcissement de son cœur. Même exposé progressivement, le pécheur tente encore de se cacher. L'autre raison que je voudrais relever, pour laquelle Dieu procède de cette manière, c'est pour préparer un contraste avec l'Évangile. Je m'explique. Le texte y produit ici une tension dramatique. Au fond, c'est la question qu'on se pose, c'est qui portera la responsabilité d'Israël ? Il y a une responsabilité collective. Israël est dans la défaite. Mais il y en a un qui doit être désigné comme coupable. À la fin, un homme est isolé du peuple, Achan. Il est le porteur de la faute. Il est conduit hors du camp et il est mis à mort. Lui et tout ce qui lui appartient. Il est dévoué par interdit, verset 26. L'Éternel revint alors de l'ardeur de sa colère. Vous comprenez que ça anticipe le contraste, par contraste, avec Jésus-Christ. Lui aussi isolé du peuple. Exposé publiquement. Conduit hors du camp. Hors de Jérusalem. Portant notre trouble, notre malédiction, Mais contrairement à Achan, Jésus, lui, est innocent. Et c'est pour ça que son sacrifice peut payer pour nos crimes, nos fautes. Dans Josué 7, le coupable porte son jugement. Dans l'évangile, Jésus porte le jugement des coupables. Jésus le parfait. Dieu n'est pas différent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Sa colère et son jugement contre le péché sont les mêmes. Mais dans la Nouvelle Alliance, le châtiment est porté par Christ pour tous ceux qui croient en lui, qui se placent en lui leur confiance. Pour les autres, pour ceux qui refusent de croire, la colère de Dieu demeure sur eux. Ils connaîtront son jugement, l'enfer. Notez encore les paroles de Josué, chapitre 7, verset 19. Et je termine avec ça. J'ai été très long là, ce matin. Désolé. Il dit, « Mon fils, donne gloire à Dieu. » Vous avez remarqué ça? Josué, quand il arrête Achan, il dit, « Mon fils, donne gloire à Dieu. » Ça signifie, donner gloire à Dieu, ça signifie ici reconnaître la vérité. Cesser de cacher le péché, ça veut dire reconnaître la justice divine. La confession devient une manière d'honorer Dieu au fond, en reconnaissant sa faute, tandis que cacher son péché revient à contester implicitement sa sainteté et sa connaissance. La Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira devant Christ. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout, partout, tout le monde, aucun qui est ici ne confessera pas Jésus-Christ comme Seigneur. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, telle sera votre confession. Achan l'a fait. Il l'a fait trop tard. Pour les croyants, cette confession, c'est celle du salut et de l'adoration. Reconnaître, j'ai besoin de Christ. Pour les rebelles, celle d'une vérité qui est devenue impossible à nier. Rahab, la Cananéenne, a confessé sa foi en Dieu avant le jugement de Jéricho et elle a été sauvée. Et tout le peuple cananéen pouvait faire la même chose. Elle savait les mêmes choses que Rahab. Elle et tous ceux qui sont venus se réfugier dans sa maison, et là encore on voit la solidarité, ont été sauvés. Mais Achan l'Israélite a défié Dieu jusqu'à la fin et il a été détruit. Ça n'est pas l'origine ethnique qui sauve ou condamne, mais c'est la réponse que l'on fait à Dieu. Le véritable scandale de Josué 7, ça n'est pas qu'un Cananéen puisse être jugé. C'est qu'un Israélite puisse devenir semblable à ce qu'il condamnait. Alors, cessons de juger les autres sans repentance personnelle. Confessons notre appartenance à une humanité déchue qui mérite la condamnation et venons à Christ qui prend sur lui le jugement que personne ne peut porter. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de ce que tu nous avertis d'une manière tellement flagrante dans ta parole pour que l'on puisse se détourner de notre péché, pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos fautes parce que Jésus-Christ a payé pour nous. Mais Seigneur, la manière dont on doit venir, c'est en confessant ce que l'on a fait, en confessant ce que l'on est. Et Seigneur, on prie pour que chacun ici qui entend ces paroles puisse venir à Christ. Et je prie pour que chacun d'entre nous qui sommes solidaires à cause de cette appartenance à une race déchue, nous puissions vivre avec plus de justice, mais aussi être plus lents à juger et à condamner ceux qui nous entourent, mais par contre à leur annoncer la beauté, la splendeur de ton évangile, le pardon que tu nous offres en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.